Vous êtes sur RTL.
Votre journal maintenant avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les 80 km/h, le détricotage est donc lancé.
Édouard Philippe recule, quelles seront les modalités pour le retour aux anciennes limitations de vitesse? Explication dès le début de ce journal. 2 à 4 milliards d'euros, c'est le coût pour l'économie française de 6 mois de crise des gilets jaunes. Les commerçants ont particulièrement souffert, nous irons à Nantes. L'anesthésiste de Besançon reste libre, décision du juge des libertés cette nuit, malgré les 17 nouveaux cas d'empoisonnement sur lesquels porte désormais l'enquête. Et puis le foot, Griezmann au Barça, ça se précise, son avocat arrive à Barcelone pour négocier le contrat.
Deux fois le temps, d'ici 6h30.
À Molsheim, dans le Bas-Rhin, malgré un ciel plus voilé, l'impression de beau temps résistera, surtout avec une température de 22 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Et donc, le Premier ministre remet les clés aux conseils départementaux en ce qui concerne les 80 km/h.
Ce sont eux qui décideront sur quelle route secondaire la vitesse peut être remontée à 90. La mesure était entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Alors, quel est le calendrier? Bonjour Romain Hougue.
Bonjour.
Il faut d'abord un vote à l'Assemblée, c'est ça?
Oui, et ça veut dire que ce ne sera de toute façon pas avant l'été. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un amendement qui va être ajouté à la loi d'orientation sur les mobilités. Texte qui sera voté au mieux en juillet prochain. Une fois que la loi sera passée, ce seront donc les présidents de département qui devront prendre la décision de repasser à 90 ou non. François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte d'Or, a lui déjà annoncé que 90% des routes de son territoire repasseront à 90 km/h. Même chose du côté de la Corrèze, selon son président Pascal Coste. Vous l'avez compris, tout cela dépendra donc de votre département.
Merci Romain Hougue. Et la décision d'Edouard Philippe suscite l'incompréhension de la Ligue contre la violence routière. Un choix électoraliste qui se fait au mépris de la vie des gens, réagit Chantal Perrichon. Certains présidents de conseils départementaux vont par ailleurs demander à l'État de rembourser les panneaux de limitation à 80 payés avec les impôts locaux.
Et ce recul, il intervient 6 mois tout juste après le début de la crise des gilets jaunes.
Le premier samedi de manifestation a eu lieu le 17 novembre. L'INSEE estime entre 2 et 4 milliards d'euros le coût du mouvement pour l'économie française. Ce sont les commerçants des centres-villes qui ont le plus souffert. Reportage à Nantes pour RTL, Patrice Gabart.
Un immense bandeau où l'on peut lire « Liquidation totale » masque la vitrine d'une boutique de prêt-à-porter masculin haut de gamme du centre-ville de Nantes, au grand désarroi de la seule employée.
Aujourd'hui, on est en liquidation parce que justement, on n'a plus les moyens de continuer. On fait plus le chiffre le samedi, les gens ne viennent plus. On a 45% de chiffre d'affaires en moins. Il n'y a pas de trésorerie, les banques ne suivent plus. Hein. On est obligé de fermer.
Avec les gilets jaunes et avant cela Notre-Dame-des-Landes et les lois travail, Nantes vit depuis 2016 et ses 29 manifestations, rien que cette année-là, au rythme des défilés du samedi et des débordements parfois très violents. La clientèle prend donc de nouvelles habitudes et ces 6 derniers mois, les chiffres d'affaires baissent en moyenne de 30% le samedi, ce qui met en péril les commerces les plus fragiles. Au moins 16 n'y résisteront pas, selon Olivier Dardet, président de Plein Centre, l'association des commerçants de l'hypercentre-ville, ceux qui sont les plus exposés.
Quand vous êtes petit restaurant indépendant, petite boutique dans une petite rue du centre-ville de Nantes et vous avez mis vos petites économies dans la boutique et que vous ne faites pas le chiffre, vous n'avez pas d'autre moyen que de mettre la clé sous la porte ou d'autres options. On essaye de sauver les meubles en vendant.
Les aides de l'État, de la région et de la ville de Nantes en place depuis janvier devraient juste permettre de limiter la casse.
Patrice Gabart, la décision a donc été annoncée cette nuit. L'anesthésiste de Besançon reste en liberté sous contrôle judiciaire. Hier pourtant, le parquet avait élargi la procédure. Le docteur Péchier est désormais poursuivi pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement présumés qui viennent s'ajouter aux 7 pour lesquels il est déjà mis en examen. La réaction ce matin de l'un de ses avocats, Randall Schwerdorfer.
On n'est qu'au début d'une toute nouvelle procédure et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est le temps que va prendre ce dossier. Et il nous semblait fondamental que le docteur Péchier puisse rester libre pour sa famille. C'est tout ce qui lui reste. On lui a pris son travail, sa vie professionnelle. Il ne lui reste plus que cette liberté et c'était essentiel de la conserver.
L'avocat de l'anesthésiste de Besançon chez nos confrères de M6, il n'a jamais été pris sur le fait, expliquait hier soir le procureur. Il est simplement le seul à avoir systématiquement été présent lors de tous ces incidents suspects à la clinique Saint-Vincent de Besançon. Prison ferme requise contre le couple Balkany, jusqu'à 4 ans pour le maire de Levallois, 2 ans pour son épouse. Le procès arrive au terme de sa première phase, l'examen de la fraude fiscale. Le tribunal doit maintenant se pencher sur le volet blanchiment. La décision sera prise le 13 septembre.
Et tiens, il y a moins de 10 minutes avec Virginie Garin, notre experte environnement, on parlait des ravages du plastique dans nos océans juste avant ce journal. Un moyen, tiens, de lutter contre ce fléau, c'est le tri, bien sûr.
Les professionnels du recyclage lancent cette semaine une campagne nationale. Trier, c'est donner pour la planète. Encore faut-il savoir où où et comment. Certaines municipalités prennent des initiatives originales. À Saint-André de Cubzac, par exemple, en Gironde, Philippe de Maria, c'est un kiosque pour tous les déchets qui a été placé en plein centre-ville.
Oui, ça ressemble à un kiosque à journaux juste en face de la mairie. Sauf qu'on y voit toute la journée des habitants venir y déposer dans les trappes prévues à cet effet des sacs poubelles et autres déchets. Sébastien est restaurateur.
Je vide presque 2-3 poubelles par jour, donc bon, c'est impeccable parce que ça me permet de ne pas les stocker chez moi. Je peux avoir des odeurs, des nuisibles, des choses comme ça. Avant, on avait tendance à tout jeter des fois dans la même poubelle. On a tendance à pas trier au niveau du verre, donc là, c'est vrai que ça incite plus à trier, quoi.
Le kiosque veut limiter l'usage des poubelles qui encombrent les trottoirs du centre-bourg et il permet surtout un tri très efficace. Hélène Richet, adjointe à l'environnement.
On peut déposer le verre, les recyclables, carton, papier, mais aussi les piles et du petit électroménager. Ça vous évite d'aller faire la queue à la déchetterie pour des petites choses.
Revers de la médaille, le kiosque attire des encombrants qui n'ont rien à faire là.
Ça peut être une palette, un four à micro-ondes ou un réfrigérateur, un matelas, les cartons qui sont déposés à côté parce qu'ils ont la flemme de les plier et de les rentrer par le sas, ahurissant.
La municipalité de Saint-André de Cubzac n'hésite ne pas à utiliser les caméras de surveillance pour identifier les contrevenants.
Un reportage de Philippe de Maria. La mort de Yao Ming-pei, il était l'architecte de la pyramide du Louvre. On l'a appris cette nuit. D'origine chinoise, il vivait aux États-Unis. C'est lui que François Mitterrand avait choisi pour la rénovation du plus grand musée du monde. Projet qui a déchaîné les passions dans les années 80. Pei avait construit dans le monde entier, notamment la magnifique tour de la Banque de Chine à Hong Kong. Il avait 102 ans. Une soirée qui entrera dans la légende de Cannes. Elton John, seul au piano hier soir sur la croisette face à la plage après la projection de Rocketman, le film qui retrace la vie tourmentée du chanteur. Elton John en était sorti bouleversé, en larmes sous les yeux des spectateurs du Palais des Festivals.
Et on y reviendra, tiens, justement sur cette soirée complètement dingue dans le journal de 7h30 et bien entendu également dans Laissez-vous tenter à 9h tous les jours, l'actualité de Cannes entre 9h et 9h30 sur RTL.
Enfin le football, et c'est RTL qui vous le révélait dès hier, les choses se précisent pour l'arrivée d'Antoine Griezmann au Barça. L'émissaire de l'attaquant des Bleus arrive en Catalogne, Mathias Valton.
Oui, Sevan Carian, l'avocat parisien d'Antoine Griezmann, sera à Barcelone à partir de demain et y restera jusqu'à mardi prochain. Après leur avoir fait faux bond l'an dernier, Griezmann semble donc de plus en plus proche de signer au Barça cet été. Si rien n'est encore officiel, le Français aurait fait son choix depuis plusieurs semaines. Il y a 2 mois, au lendemain de son élimination en Ligue des Champions avec l'Atlético, il aurait ainsi demandé à son entourage d'accélérer les négociations avec le club catalan. À Barcelone, un contrat de 5 ans l'attend et plusieurs médias assurent qu'il aurait déjà signé un préaccord avec l'équipe de Lionel Messi. D'autant qu'hier, les rumeurs l'envoyant au PSG et au Bayern Munich se sont sérieusement dégonflées. Et on voit mal Griezmann annoncer son départ de l'Atlético de Madrid sans avoir déjà trouvé un point de chute. Son transfert au Barça pourrait d'ailleurs être officialisé très prochainement. Selon les médias espagnols, le président barcelonais Josep Bartomeu veut que l'affaire soit bouclée avant lundi prochain.
Les infos de Mathias Valton à Barcelone pour RTL.
Dans le journal de Jérôme Chapuis. Merci Jérôme et on vous retrouve tout à l'heure à 7h. Bien entendu.
Bien entendu.